Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. À l'occasion de la semaine de la presse à l'école, nous nous intéressons aujourd'hui à la santé mentale des enfants et des adolescents. Échecs scolaires, phobie scolaire, prise de risque, harcèlement, que faire face au malaise d'un lycéen? Quand consulter un pédopsychiatre? Quels sont les moyens de prise en charge? Vous savez que dans le cadre de cette journée spéciale sur RFI, les élèves des lycées français à l'étranger participent aux différentes émissions de notre chaîne. Nous nous entendrons des élèves du lycée français de Phnom Penh au Cambodge. Et je voulais vous rappeler qu'en 2014, une étude de l'UNICEF montrait qu'en France, plus de 40% des adolescents étaient en état de souffrance psychologique. Qu'en est-il réellement? Est-ce que la situation est la même à travers le monde? On en parle avec le professeur Marie-Rose Moreau, chef de service à la maison des adolescents de l'hôpital Cochin à Paris, qu'on appelle plus souvent la maison de Solène. Elle vient de publier, de republier les ados expliqués à leurs parents aux éditions Bayard. Et bien sûr, si vous avez envie de lui poser des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Dans cette émission, on aura également au téléphone le docteur Ali Njoukandi, qui est pédopsychiatre au centre de neuropsychopathologie de l'université de Kinshasa en République démocratique du Congo. Professeur Marie-Rose Moreau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. En fait, ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venue dans Priorité Santé.
Je suis très contente, Claire,
que vous reveniez. Alors évidemment, avant qu'on parle de la santé mentale des ados, j'ai évidemment envie de vous faire réagir à ce crash de l'A320. Le copilote, a priori, a précipité l'avion dans le vide. L'hypothèse du suicide a été évoquée. Qu'est-ce qu'un psychiatre comme vous peut dire?
Alors, d'abord, prudence.
Question difficile.
Oui, et puis prudence, parce qu'évidemment, on n'a pas l'ensemble des éléments. On sait que c'est un jeune adulte qu'il a souffert de dépression et, a priori, qu'il a délibérément envoyé l'avion au crash et qu'il a tenu, apparemment, contre vent et marée et il a empêché le pilote de rentrer si les informations qu'on nous donne sont vérifiées. Sont confirmés. Alors, c'est donc un acte délibéré. Bien sûr, il a voulu mourir.
Le mot suicide vous gêne dans ce cas?
Oui, le mot suicide me gêne d'un point de vue psychopathologique parce que il existe des situations où on a tellement envie de mourir, on a envie de mourir et on emmène avec soi d'autres personnes, ce qu'on appelle les suicides altruistes. Mais dans ces situations, c'est pour diminuer la peine de ces autres personnes, ses enfants, sa famille.
Donc de proches.
De très très proches avec lesquels on est très très liés et on n'imagine pas partir sans partir avec eux. Donc là, c'est une sorte de souffrance très très importante qui conduit au suicide d'un petit groupe. Mais là, on n'est pas dans cette situation. Il n'a pas de lien avec tous ces gens
passagers.
Qui étaient dans l'avion et en particulier, on pense par exemple à ce groupe d'adolescents qui rentraient d'un voyage scolaire. Il n'était pas en lien avec eux. Il n'était pas en lien avec les passagers. Donc il a voulu. C'est plutôt une sorte. Il a dans ce qu'on peut comprendre, il a voulu que tout le monde meure. C'est plus un acte de violence à l'égard des autres qu'à l'égard de soi. Bien sûr, il est mort avec. Mais pourquoi il avait ça? Quel sens ça? Pour l'instant, ça ne peut pas prendre de sens pour nous. Alors il peut.
C'est ça justement. On a envie de comprendre, mais est-ce qu'en fait c'est compréhensible?
Dans l'état actuel des choses, c'est pas compréhensible. Et alors que le suicide, la plupart du temps, mais vraiment quasiment à chaque fois, c'est un acte compréhensible dans la douleur, dans la psychopathologie, dans on n'a plus rien à perdre. Et je le fais pour moi, je ne veux rien changer à la vie des autres. Donc là, il y a quelque chose de différent, d'un passage à l'acte, d'une violence à l'égard des autres. Et qu'est-ce qui motive cette violence à l'égard des autres à voir.
Et il faut peut-être accepter de temps en temps qu'en psychiatrie, justement, on ne peut pas tout comprendre.
Et on peut aussi... Je ne suis pas absolument certaine que ce soit un acte psychiatrique. C'est-à-dire que ça peut être aussi un acte vraiment de « je veux faire un acte et je veux faire une violence à l'égard des autres ».
Pas forcément un acte de folie, en fait. C'est ça, pas forcément un fou. Non, voilà, non. C'est ce que vous dites. C'était la question que je voulais vous poser parce que c'est dans l'actualité. Vous êtes psychiatre, évidemment, on avait envie de vous faire réagir dès le début. On va parler maintenant vraiment de santé mentale à l'école. La dernière fois que vous étiez venu il y a 2 ans, vous m'aviez alerté sur cette question de phobie scolaire en me disant « moi j'avais l'impression que c'était un peu un épiphénomène ». Vous dites que c'est beaucoup plus fréquent différent que ce qu'on imagine. D'ailleurs, vous organisez début juin, le 4-5 juin à Paris, un colloque sur école de tous les mondes. Pourquoi, justement, dans cette idée-là, et éviter le décrochage scolaire?
Alors oui, effectivement, on organise un colloque ouvrir les mondes, l'école de tous les mondes, pardon, ouvrir les murs, c'est cette idée que l'école doit pouvoir être un lieu où on est bien, où on est heureux, et on organise ce colloque pour comprendre effectivement pourquoi et agir. Depuis maintenant plusieurs années, progressivement, l'école est devenue un lieu pour trop d'adolescents, un lieu de souffrance en fait. Alors, il y a plusieurs facteurs en réalité. Pour être bien à l'école, il faut d'abord être un adolescent qui va bien. Dans une famille qui considère que l'école est un lieu de savoir et un lieu légitime pour apprendre, il faut pas avoir peur de faire le chemin jusqu'à l'école. Donc il y a tout ça. Et ensuite, on arrive à l'école. Là, il y a les amis. Et il faut se sentir tranquille, heureux avec ses amis. Et puis, il y a le rapport aux enseignants, à leur méthode et au savoir. Est-ce que moi, je suis digne d'apprendre? Et alors, vous voyez...
Ça fait beaucoup de monde.
Ben oui, sur ce chemin de l'école, ça fait énormément d'endroits où il peut se passer quelque chose qui fait souffrir, quoi. Et alors, donc, il y a à la fois une question de société. Comment ça se fait que cette école... devient un lieu aussi précaire, aussi où finalement on doute de sa capacité à apprendre des bonnes choses aux enfants. Et donc il y a une question de société. Et puis après il y a une question psychologique. Pourquoi les enfants et leurs familles, mais pourquoi les adolescents doutent d'eux-mêmes aussi, de manière aussi forte? Pourquoi ils ont le sentiment qu'ils vont pas pouvoir apprendre, à tel point que pour un certain nombre d'entre eux, ils vont rester enfermés dans leur chambre. Et effectivement,
ne plus pouvoir aller à l'école.
Ne plus pouvoir faire le chemin, tout ce chemin qu'on vient de décrire. Et un certain nombre d'entre eux développent ce qu'on appelle des phobies scolaires. Et ça se développe énormément en France, hein, mais aussi dans le monde en réalité. Et donc, je crois que on est obligé de regarder dans chacun. Et il y a des différences importantes dans les méthodes, par exemple dans les méthodes d'apprentissage dans le monde, mais de regarder à chaque fois sur ce chemin-là, qu'est-ce qui fait du mal aux enfants et comment on peut agir.
C'est ça, comment faire de la prévention. À la maison des adolescents, finalement, quelles sont les pathologies les plus fréquentes? Et je vous pose cette question-là en vous demandant, mais justement, est-ce que l'école est au centre de ces problèmes pathologiques? Est-ce que c'est quelque chose de l'échec scolaire, la phobie qui revient très souvent dans le pourcentage de vos patients? Alors, je ne sais pas si vous avez du mal à dire des chiffres comme ça.
Non, on peut très facilement dire. En fait, nous, on voit... 3000 adolescents par an dans mon service à la maison de Solène. C'est beaucoup, 3000 adolescents, leurs parents, toutes les équipes qui s'occupent d'eux. Donc c'est un échantillon pas du tout représentatif mais important de la population française sur ces et parisienne, Île-de-France. Sur ces 3000 adolescents, quelle que soit la pathologie, ils sont anorexiques, ils ont fait une tentative de suicide, ils n'arrivent pas à suivre à l'école, ils sont trop gros, ils sont trop maigres, enfin il y a plein de raisons pour aller mal. Mais sur ces 3000, environ 75% par an, hein, 3000 nouveaux, donc ça veut dire ça fait...
Vous en suivez d'autres, oui.
Ouais, 75%, même un peu plus de 75%, ont des difficultés avec l'école, quel que soit le type de souffrance. Et pour un tiers d'entre eux, donc pour 1000 adolescents pour nous, l'école est au centre. Alors, l'école, sachant que c'est tout ce que je viens de dire, aussi bien le rapport aux autres, le rapport au savoir, le rapport au professeur, le rapport aux parents, bien. Parce que pour aller à l'école, il faut imaginer quitter sa famille et que ça se passe bien.
Hein. En tout cas, ce que je retiens dans le chiffre que vous donnez qui est impressionnant, pour les trois quarts, il y a quand même un problème avec l'école.
Eh oui.
Donc c'est absolument, on est au cœur du sujet quand on parle du malaise à l'école.
Ah oui, oui, voilà. C'est à tel point que pour nous, soigner les adolescents, c'est reconstituer un projet scolaire aussi. C'est-à-dire qu'on va lui redonner envie de vivre, ok, ça c'est très important, mais il faut aussi qu'on lui redonne, qu'il trouve une manière d'avoir envie d'apprendre, d'aimer le savoir, d'imaginer que lui, un jour, il va pouvoir agir sur le monde par sa réflexion, par son action, par son métier. Si on fait pas ça, on considère qu'on l'a pas guéri. Hein. Donc, c'est très important pour nous, le projet scolaire.
Alors justement, absentéisme répété, fête, shit, alcool, c'est à l'adolescence que Luc commence à esquiver l'école. Mais avant, franchement, à l'école primaire, même au collège, il avait plutôt des bonnes notes, ça marchait bien. C'est au lycée que ça se complique, comme il explique au micro d'Élodie Boudjari, il revient sur sa relation à l'école qui fuit dès 16 ans.
Ça a changé à partir du moment où, oui, j'ai commencé à avoir des mauvaises notes, ce qui correspondrait à l'époque lycée, je dirais. Parce qu'avant, au collège, encore, je prenais encore ça à la rigolade, hein, on avait des bonnes notes. Et donc, c'était encore un plaisir d'aller au collège, revoir ses copains, etc. Mais à partir du lycée, c'était commencé à être pénible de devoir aller à l'école. 16, 17, 18 ans, on va dire que c'est les années où j'étais le plus absent de cours, je pense. Étant donné que j'avais fait le choix de faire une première S et terminale S, que j'ai redoublé chacune d'entre elles. Donc oui, c'était l'époque où j'allais pas souvent en cours. Moi, je me sentais dans mon droit, je me disais que j'avais envie de faire un peu ce que je veux, donc je faisais ce que je veux. Je le voyais plus comme ça, dans une espèce d'esprit de rébellion.
Et selon vous, aujourd'hui, de quoi aviez-vous peur? Qu'est-ce que vous avez fui en fuyant l'école?
On peut dire que je fuyais la difficulté, peut-être. Parce que c'était ne pas aller en cours, c'était plus une solution de facilité. Et l'envie de ne pas trop se prendre la tête.
Et est-ce que vous aviez d'autres moyens de fuir dans votre vie, à ce moment-là?
Pour fuir, s'évader, on va dire. Il y avait tout d'abord le sport, moi je dirais, c'était le premier élément qui nous réussissait en dehors de l'école. Je sortais quand même souvent aussi avec les amis. Je dirais qu'en plus j'ai commencé à fumer l'année où j'ai redoublé. Il y a beaucoup de gens qui fument ou qui boivent pour oublier, donc ouais, je pense que à cette époque-là, je faisais partie de ces gens-là. J'ai été un peu contraint, forcé de faire une première S. Si tu n'avais pas un bac général, t'étais un peu rien. Enfin, c'était très, très mal considéré, en tout cas, dans ma famille. Si j'avais eu le choix, je pense que j'aurais fait une première STT vente ou communication. Je pense que si on te le fait comprendre assez jeune, que tu as des qualités dans certains domaines et qu'il faut travailler là-dedans, je pense que c'est beaucoup plus motivant, en tout cas.
Et là, vous venez tout juste de reprendre une formation et donc de retourner à l'école. Est-ce que vous avez eu peur de quelque chose?
Pour moi, à 28 ans, ayant bossé 5 ou 6 ans dans ma vie, etc., quand j'ai commencé ma formation professionnelle en septembre, j'avais une grosse appréhension, oui. Et même aujourd'hui, hein, c'est cette espèce de peur du vide. Il y a des après-midi que j'ai passé en cours où je buvais les paroles de mes intervenants. Et c'est sûr que ça n'a jamais été le cas, je pense, au lycée. Hein. Depuis cette époque-là, je ne veux plus faire quelque chose que je n'apprécie pas à contre-cœur. Aujourd'hui, moi, l'école est un plaisir pour moi, mais je ne pense pas qu'elle le soit pour tout le monde. Particulièrement les jeunes qui sont avant le bac, hein, je dirais. Parce qu'après le bac, bon, tout le monde fait un peu ce qu'il veut, mais ouais, pour des jeunes qui sont avant le bac, je pense que la majorité n'a pas forcément plaisir à aller à l'école.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons de la santé mentale des adolescents avec le professeur Marie-Rose Moreau. Évidemment, j'ai très envie de votre réaction à ce témoignage de Luc. Je vous ai vu froncer les sourcils au moment où il a parlé alcool et cannabis, non, parce que j'imagine que c'est quelque chose de très fréquent qui contribue évidemment à l'échec scolaire.
Alors oui, d'abord je trouve que Luc, il dit clairement les choses, il a une réflexion, alors il est un peu plus âgé, mais il a une vraie réflexion sur son parcours et très intéressante. Alors j'ai froncé les sourcils, effectivement, non pas, je ne crois pas qu'il dit j'ai fumé, souvent c'est fumé du cannabis dans ce cas-là, c'est pas une cause de l'échec scolaire, il le dit bien d'ailleurs, il cherchait
c'était
à s'anesthésier,
calmer les angoisses.
Voilà, il fuyait des choses, il était angoissé, il se sentait pas à sa place, alors il avait pas choisi, etc. Et donc il a il a cherché des manières de s'anesthésier, en fait, d'avoir moins mal, d'avoir moins d'inquiétude. Et donc, c'est plus une conséquence.
C'est ça, mais c'est pas la cause, mais ça n'arrange pas la...
Ah ben non, bien sûr. Ah non, non, non. Et je crois que les adolescents, en tous les cas, ils s'imaginent pas toujours combien on est vite pris par ça. Les effets du cannabis sont tels sur un cerveau et sur un développement qui n'est pas encore terminé, que très vite on est fatigué, on a des difficultés de concentration, de mémoire, on perd le rythme, le temps. Donc il y a un vrai effet sur les surtout au lycée, donc sur l'apprentissage. Mais au début, c'est une manière presque de se soigner.
Dans le chiffre que vous nous avez donné tout à l'heure sur les trois quarts en gros de vos patients qui ont un souci, un problème avec l'école, justement là-dedans, il y a vraiment fréquemment un problème aussi qui s'y ajoute de cannabis et d'alcool.
Alors, le cannabis et l'alcool sont associés, mais pas toujours. Hein. Mais donc, j'ai l'impression que c'est d'ailleurs plus du cannabis que de l'alcool dans nos chiffres. Mais je dirais, sur nos 3000 ados, la moitié fument quelque chose ou boivent quelque chose.
Et un peu beaucoup, c'est ça?
Oui, 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 mais c'est extrêmement fréquent. Hein. C'est une manière aujourd'hui en France
D'exprimer un malaise?
D'exprimer un malaise et d'essayer de le régler, en fait. C'est une fausse manière, mais c'est quand même une tentative.
Parce que c'est un côté calmant.
Oui,
c'est calme. C'est clairement pour ça. On a Maxime qui nous appelle de Bamako au Mali. Maxime, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, parlez bien près du téléphone et bien fort, parce que j'ai l'impression que la ligne téléphonique n'est pas très bonne.
Bonjour tout le monde, d'abord, bonjour Claire Rodon. Je voulais en fait témoigner le cas de ma cousine, au sein des chantiers.
Alors, je suis vraiment désolée, la ligne téléphonique est trop mauvaise, on va essayer de vous rappeler, là on n'arrive pas à entendre ce que vous dites, je pense que c'est beaucoup mieux qu'on vous rappelle. On était en train donc de parler de tous ces problèmes d'échecs scolaires et de phobie scolaire, c'est-à-dire ça va jusqu'au fait de l'enfant, l'adolescent ne peut plus aller à l'école. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Quelle prise en charge?
Alors,
parce que le but, c'est qu'il retourne à l'école.
Oui, bien sûr. Le but, c'est qu'il se sente capable d'apprendre en allant mieux. Hein, parce que, alors justement, alors qu'est-ce qu'on fait? On a un adolescent qui est en grande difficulté ou qui a une vraie phobie scolaire. D'abord, on va évaluer son fonctionnement. Est-ce qu'il est déprimé ou pas? Est-ce qu'il est angoissé ou pas? Est-ce qu'il est pris dans une addiction ou pas? Parce que on disait que le cannabis calme, mais il calme transitoirement, hein, vraiment très très transitoirement. Et après, il y a beaucoup d'effets secondaires. Est-ce que il a peur de quitter sa famille? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est une difficulté d'attachement, comme on dit. Je me sens pas assez sûre et j'ai peur d'être tout seul, quoi. Donc, on va évaluer tout ça et on va d'abord soigner ça parce que c'est évidemment un élément, cette fragilité-là. Donc, c'est les traitements en rapport avec les psychothérapies, parfois des médicaments quand c'est nécessaire.
Des médicaments qui peuvent être quoi? Des
antidépresseurs par exemple. Si vraiment
et psychothérapie, donc par la parole, par l'expérience. Expliquer ce qui ne va pas.
Alors, par la parole et par tous les moyens d'expression. On peut utiliser n'importe quelle, la musique, la danse, enfin, on peut utiliser des manières d'exprimer la peinture, le slam. Donc, premièrement, renforcer l'adolescent. Deuxièmement, regarder comment fonctionne la famille et éventuellement agir sur les liens familiaux par une thérapie familiale. Ça marche très très bien. Dans
vous prenez
scolaire.
Aussi contact avec l'école.
Alors voilà, ça, on fait par étapes. Et d'abord, donc, on fait ça. Une fois que tout ça est un peu renforcé, qu'on a consolé un peu chacun, on va travailler avec l'école et on va travailler avec l'école sur les compétences de l'adolescent et pas sur ses difficultés. D'abord, par exemple,
c'est un peu un changement de regard.
C'est vrai, un changement total de regard et ça modifie les choses.
On y revient dans 3 minutes, juste après les informations. Vous continuerez à nous parler de la prise en charge de ces adolescents.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la santé psychique des adolescents et ce, à l'occasion de la semaine de la presse à l'école. Mon invité est le professeur Marie-Rose Moreau. Elle est chef de service à la maison des adolescents de Cochin à Paris, qu'on appelle souvent la maison de Solène. Elle vient de publier, plutôt de republier, en y ajoutant d'ailleurs des éléments, Les ados expliqués à leurs parents aux éditions Bayard. Important justement pour comprendre les problèmes de l'école. Et vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler au 33 1 84 22 75. 75. Juste avant les informations, professeur Marie-Rose Moreau, vous étiez en train de nous expliquer en quoi consiste la prise en charge, plus particulièrement dans le cas de phobie scolaire, mais j'imagine que dans le cas d'échec scolaire prolongé, ça doit être assez proche. Donc évidemment, d'abord prise en charge de l'adolescent, contact aussi avec la famille, puis après avec l'école.
Voilà, donc prise en charge de l'adolescent, de la famille, ça marche très bien. Et ensuite, on discute avec l'école sur qu'est-ce qui est difficile pour cet adolescent, avec un principe que je trouve les écoles acceptent de plus en plus. C'est qu'on va retravailler sur le désir d'apprendre des adolescents. Et pour ça, il faut travailler sur leurs compétences. Par exemple, un adolescent, lorsqu'on va le rescolariser, donc déjà, il faut qu'il puisse retourner à l'école, on l'accompagne. S'il a des angoisses, on va sur le chemin, on va lui faire dire ce qui l'inquiète pour sortir ces éléments. Et puis, arrivé à l'école, il faut qu'il y prenne plaisir. Donc, si un adolescent est en échec massif en mathématiques, on va lui refaire au début... Il va faire ce qu'il aime, par exemple l'anglais ou le français ou seulement la musique, peu importe. Vraiment, on va valoriser ce qu'il est capable d'apprendre et lui dire au fond, tu vois, tu es capable d'être un élève, un bon élève, parce que vraiment ils ont des images d'eux-mêmes, ces adolescents en échec.
Je suis nul
et ma présence dans une classe, parfois ils disent des choses comme ça, ma présence dans une classe dégénère la classe, quoi. Vraiment, le fait que moi je sois dans cette classe, tellement je me sens nulle. Et donc on va retravailler sur les compétences. Et une fois que l'adolescent se sent compétent, heureux, qu'il a des moments comme ça où vraiment il prend un plaisir, alors on va augmenter progressivement les matières. Alors nous, on fait ça parfois d'abord à la maison des adolescents et puis ensuite progressivement il va le faire à l'école. Mais il y a toute une série de choses qu'on peut faire. On signe des contrats, chaque adolescent va signer un contrat avec l'école où par exemple il va dire je vais faire le français, l'anglais et l'histoire, et puis c'est tout. Et puis après je ferai les mathématiques, la physique, chimie. Et ça marche très très bien. Ça marche très très bien lorsque l'école comprend l'idée. Je suis pas paresseux.
Alors c'est exactement ça que j'avais envie de vous demander. Deux questions par rapport à ça. Est-ce que l'école, entre guillemets, joue le jeu et comprend? Parce qu'on est peut-être dans un système scolaire, entre autres en France, qui est quand même très normatif. On a du mal à avoir justement des gens qui font les choses un peu différemment.
Alors, en fait, ce qui pose problème à l'école en France, c'est effectivement que tout le monde doit faire pareil. Alors qu'un adolescent ne fasse pas pareil, par exemple, dans une classe, éventuellement, l'adolescent reprend tout, mais il n'a pas de devoir sur table. Le jour des devoirs sur table, soit il fait un devoir, mais il n'est pas noté, soit éventuellement il ne fait pas son devoir. Et alors là, il y a une question de principe. Est-ce que dans un groupe classe, il est possible qu'un adolescent ne fasse pas comme les autres? Ce qui est intéressant, c'est que les adolescents, les autres, ça ne leur pose aucun problème, parce qu'ils s'imaginent aussi que pour eux, ça pourrait être bon aussi. Mais effectivement, la question du principe, ce fameux principe, tout le monde est pareil. Non, le principe, c'est un principe d'égalité vraie, c'est-à-dire tout le monde
n'est pas pareil.
Tout le monde peut un jour accéder à tout, mais comment je fais pour y accéder? Et en réalité, donc, on travaille là-dessus, et je trouve toutes les écoles avec lesquelles nous on travaille, donc écoles, surtout des collèges, des lycées professionnels, lorsqu'on travaille et que les écoles se rendent compte combien c'est efficace, il n'y a plus de problème, après on va pouvoir le faire pour les autres. Mais il y a vraiment une question de principe. Actuellement, l'éducation nationale française résiste un peu quand même, mais je trouve que voilà, il y a une négociation possible.
Tout à fait. Je vous l'avais dit en début d'émission, dans le cadre de cette journée spéciale sur RFI, les élèves des lycées français à l'étranger participent aux différentes émissions de notre chaîne. Nous allons entendre des élèves du lycée français de Phnom Penh au Cambodge. Alors on a au téléphone Johanna Chea, qui est infirmière scolaire au lycée français René Descartes de Phnom Penh au Cambodge. Johanna Chea, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Vous allez nous expliquer ce que vous avez mis en place, qui me paraît très intéressant dans votre lycée. Camille est également avec nous. Bonjour Camille.
Bonjour.
Vous êtes élève dans ce lycée. Je vais commencer par vous poser quelques questions avant je dirais d'en poser à l'infirmière. Merci beaucoup Camille d'accepter de parler, parce que c'est pas forcément évident. Est-ce que vous pouvez nous raconter les difficultés auxquelles vous avez été confrontée justement au lycée?
Par rapport au lycée surtout, ou
par rapport à la vie en général justement, mais qui s'est aussi manifestée du coup au lycée. Racontez-nous.
D'accord.
Ce qui vous a amené finalement surtout à consulter l'infirmerie, l'infirmière?
En fait, ça a commencé d'abord par quelques pressions familiales, on va dire. Et au fur et à mesure, ça s'est empiré, entre guillemets. Et au fur et à mesure, vu que j'ai une santé assez fragile, en fait, il y avait le physique qui a commencé à ne plus aller non plus. Donc au fur et à mesure, j'ai commencé à aller voir l'infirmière, justement.
Et juste Camille, quand vous parlez de pression familiale, c'était pression pour que vous travailliez de mieux en mieux à l'école, c'était ça?
Oui, c'était surtout ça, oui. C'était que je garde mes notes qui sont très bien.
Oui, c'est ça, une bonne élève.
Oui.
Donc vous avez commencé à aller à l'infirmerie. Comment se manifestait votre malaise?
Par des maux de tête, par de l'insomnie surtout. Je dormais très mal, voire pas du tout même. Et j'avais aussi des reflux gastriques également. Et je me sentais faible pendant les cours, etc. Donc ça m'avait emmené à aller à l'infirmerie.
Et il y a eu des répercussions scolaires? C'est-à-dire, j'imagine que du coup, c'était plus compliqué d'avoir des bonnes notes dans ces conditions?
Oui, j'avais remarqué une chute qui était très remarquable, en fait, vu que j'étais passée, on va dire, normalement, j'avais des notes où on me félicitait, tandis qu'à la fin de ces trimestres, j'avais que des encouragements. Donc, je suis passée à des notes qui sont excellentes, qui sont à des notes plutôt moyennes, en fait.
Et là, la famille n'était pas contente?
Non, pas très contente, mais ils n'y portaient pas. À la fois, ils portaient vraiment beaucoup d'importance sur les bonnes notes, mais à la fois, ils ne consultaient pas mes bulletins, en fait.
Vous étiez un peu perdu. Et alors, vous êtes allé voir l'infirmière. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quoi l'infirmière vous a aidé? Infirmière qu'on a en ligne, qui vous écoute en même temps, Johanna.
Oui, bien sûr. D'abord, elle m'a laissé me reposer à l'infirmerie, et au fur et à mesure, elle a remarqué que ce n'était pas normal de venir pratiquement tous les jours. Et elle a essayé de me parler, elle a fait plusieurs approches, et au fur et à mesure, je me suis sentie en confiance, donc j'ai commencé à lui parler. Et par la suite, elle m'a proposé d'aller voir une psy, avec l'accord de mes parents au départ. Et je lui ai expliqué que c'était pas possible, etc., etc. Et du coup, elle a réussi à arranger avec l'école des séances avec la psy, mais sans que mes parents soient au courant. En même temps, donc il y a eu cette aide de là. Ensuite, il y a eu aussi également, lorsque j'ai dit, finalement, après quelques séances, j'ai dit à mes parents que je consulte une psy. Ils ont commencé à me financer. Là, cette fois-ci, c'est mes parents. Mais c'était surtout l'infirmière qui avait parlé à mes parents, en fait. Et finalement, j'ai pu avoir des séances que mes parents finançaient et qu'ils étaient au courant. Mais récemment, il s'est passé un événement assez perturbant où ça n'allait vraiment plus. J'ai décidé d'arrêter les séances, avec mes parents. Et on a contacté finalement l'infirmière avec la psy, et elle a réorganisé des séances pour moi, en fait.
Parce qu'en fait, vous avez l'impression que vos parents, ils comprenaient pas bien à quoi ça servait, que vous voyiez une psy, ils étaient un peu en train de dire, mais bon, enfin, ça va, un peu de quoi tu te plains.
Oui, oui, voilà.
C'était un peu ça?
Voilà, oui, c'était même, on m'a même posé la question, mais pourquoi tu vois une psy alors que t'as des bonnes notes? Donc, c'était vraiment pour eux, c'est par rapport au niveau scolaire.
Oui, c'est ça, c'est ce qui les intéressait. Camille, vraiment, merci de ce témoignage. Je pense qu'il est très important pour les jeunes auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez du coup aussi expliquer qu'est-ce que vous apporte la psy? Parce que ça, c'est quelque chose d'important qu'on a de temps en temps du mal forcément à comprendre.
Eh bien, au départ, justement, j'étais très, très hésitante. Je pense que ça doit être le cas de plusieurs ados aussi.
Oh, ben, d'adultes, hein, je vous rassure, de tout le monde.
D'accord. Déjà, à la première séance, elle était très, très gentille, elle était très ouverte. Et c'était pour moi, cette première séance, c'était pas une séance de psy, c'était plutôt un dialogue, en fait, avec une personne qui essaye de me comprendre et qui essaye de m'aider, ou essayer de me proposer des solutions. Et ça m'avait étonnée, en fait, de la première, par rapport à ce que je m'étais imaginé, en fait. Donc,
et en quoi ça vous aide?
Eh bien, je trouve que lorsqu'on a des problèmes, c'est à force de le garder en soi, ça reste et ça crée justement, par exemple, pour moi, je trouve que pendant que je suis beaucoup stressée, j'ai des reflux. Donc, ça ressort physiquement. Et d'en parler à quelqu'un qui aide et qui explique et qui essaie de me trouver une solution, je trouve que ça aide beaucoup.
J'ai envie de faire réagir le professeur Marie-Rose Moreau avant de donner la parole à l'infirmière Johanna. Je trouve que ce témoignage de Camille est très impressionnant. D'abord, oui, le psy, une séance de psy, bah oui, c'est parler tout simplement. Non, oui. Mais il faut démystifier cette question-là.
Bah Camille, elle le fait parfaitement. Elle explique parfaitement, effectivement, ce que c'est. D'abord, c'est un dialogue avec quelqu'un qui n'a pas de préjugés et qui cherche à se mettre, à comprendre du point de vue de la personne elle-même, là en l'occurrence du point de vue de Camille, et pas du point de vue des notes, mais de l'ensemble de la vie de Camille, de sa personne, de sa subjectivité, de sa place à elle. Et c'est précieux. Pourquoi ? Parce que c'est très rare et qu'il faut apprendre à le faire. C'est une sorte de technique en réalité, c'est la technique psychologique, psychothérapique. Et parce que c'est la plupart du temps, on projette ce que nous on pense.
C'est ça, la bonne copine ne peut pas faire la même chose.
Non, et les parents non plus. Les parents non plus, ils sont sans doute préoccupés parce que la vie est difficile et qu'il faut trouver un métier, etc. Ils ont leurs raisons, si j'ose dire. Mais justement, Camille, elle a les siennes aussi. Et son corps, il dit « j'en peux plus, quoi, je n'en peux plus ». Ce qu'elle décrit d'ailleurs, avoir mal à la tête, avoir mal au ventre, ne pas pouvoir dormir, avoir un reflux, c'est des choses extrêmement fréquentes. Et c'est tellement précieux, une infirmière comme Johanna qui reconnaît que là, le corps, comme il parle, quoi, il dit vraiment « j'en peux plus ». Et toute la négociation nécessaire pour qu'au fond, chacun retrouve sa place. Parce que pour bien apprendre, faut être heureux, hein.
Alors justement, Johanna Shea, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez mis en place pour répondre à cette souffrance? Parce qu'il n'y a pas eu que le cas de Camille dans votre lycée. Et vous vous êtes dit, au bout d'un moment, il faut à la fois répondre à la souffrance, mais aussi faire de la prévention.
Bien sûr. Alors tout d'abord, je voudrais remercier Camille pour son témoignage. C'est jamais évident de témoigner comme ça en direct. J'espère que ça pourra aider d'autres personnes qui pour l'instant se taisent à venir consulter, à venir nous voir à l'infirmerie. Et qu'on puisse enfin mettre quelque chose en place pour ces personnes-là.
Alors, racontez ce que justement vous faites.
Ce qu'on met en place dans l'infirmerie, il y a plusieurs choses. Ce n'est pas uniquement au niveau de l'infirmerie, c'est une dynamique plus globale au niveau de l'établissement. On a la chance de travailler avec des enseignants qui sont à l'écoute des élèves et qui savent détecter des premiers signes de mal-être et en référer. Alors, ils en réfèrent soit à la vie scolaire pour le collège et lycée, ou alors directement au niveau des infirmières. Il faut savoir qu'on a un établissement de plus de 900 élèves. Ça va de la maternelle à la terminale, donc ça brasse tous les âges. Ce qu'on met en place, mis à part cette collaboration entre collègues, c'est un dispositif de veille psychologique. Alors, ce dispositif-là est un peu particulier. dans la mesure où il est financé entièrement par l'école. Et il permet des interventions de psychologues, de coachs certifiés en approche neurocognitive et comportementale, des interventions auprès des élèves qui en font la demande. Alors, ce sont des élèves en souffrance qui viennent à l'infirmerie nous consulter, et après un entretien ou deux entretiens, on voit qu'il y a un besoin qui, nous dépasse au niveau de l'infirmerie, et on réfère à ces professionnels. Ou alors, ces élèves directement viennent nous voir en disant, voilà, on sait qu'il y a ce dispositif qui est mis en place, on voudrait rencontrer la psychologue ou la coach. Et ensuite, on s'occupe de mettre en lien ces intervenants avec les élèves.
Donc ça, c'est pour répondre, je dirais, au malaise. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est ce que vous avez mis en place en termes de prévention, c'est-à-dire est-ce qu'on peut éviter d'en arriver là. Et entre autres, je crois qu'il y a un programme de gestion du stress pour tenir le coup au moment des examens.
Oui. Ça, notamment, oui. Alors, ce programme de gestion, de prévention et gestion du stress avant les examens, il est mis en place, ça fait la deuxième année qu'on le met en place. C'est un programme en deux temps. Un premier temps de rencontre avec les élèves volontaires, hein, on se base toujours sur le volontariat, avec une coach qui va leur expliquer les mécanismes d'apparition du stress et qui va les aider à gérer ce stress via des exercices de relaxation et de visualisation mentale. Ensuite, il y a un deuxième temps qui est co-animé par une psychologue et une infirmière, où là, on reçoit les élèves, on libère la parole et puis on fait à nouveau des exercices de relaxation.
Et dans ces cas-là, c'est toujours important d'avoir rencontré, d'avoir vu la psy avant, parce qu'on se dit que c'est possible de lui parler sans crainte. Professeur Marie-Rose Moreau, j'aimerais bien vous faire réagir à ce qu'a mis en place ce lycée. C'est intéressant.
C'est intéressant, mais je crois que le plus intéressant dans ce type de dispositif, c'est vraiment le souci. Le souci pour les adolescents. Après, on peut le décliner, je pense, de différentes manières. On peut le décliner sous forme de on gère le stress comme ça, ou on repère les enfants qui vont mal et on leur propose des allègements, des activités. Enfin, je crois qu'on peut imaginer plus. Il y a plein de programmes qui fonctionnent. Ce qui est un peu impressionnant, c'est alors qu'on sait que ça aide énormément les adolescents de faire comme ça, de repérer et de diminuer la pression et de leur donner la possibilité de chacun de faire en fonction de ce qu'il est capable de faire, parce que c'est comme ça qu'on réussit le mieux, c'est que ça ne soit pas généralisé, quoi.
C'est pas si compliqué, en fait.
Mais non, c'est pas très compliqué. Et Johanna explique très bien leur dispositif, qui est un dispositif assez original, par exemple, de mettre un coach qui va gérer les questions de stress. Mais je suis sûre que ça marche très bien, parce que on sent qu'il y a une préoccupation des adultes globales, de tout le monde, des enseignants, manifestement de la direction de l'école, et puis des soignants. Il y a un psychologue, une infirmière. Et on constitue une sorte de... quelque chose de bienveillant, et c'est aussi une manière d'ouvrir l'école sur la société, hein. C'est notre préoccupation pour le colloque de Paris, c'est que cette école elle doit s'occuper de tous, et des plus vulnérables, de ceux qui vont pas y arriver,
voilà, quoi. Et être vraiment dans le monde. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose, Camille?
Je trouve que c'est un système, franchement, qui m'a vraiment beaucoup aidée, justement, et que je remercie beaucoup Johanna de m'avoir aidée, parce que franchement, je pense que si elle n'était pas intervenue et venue, enfin, parce que c'était surtout
elle qui est venue vers
moi. Oui, justement, parce que si elle n'était pas venue vers moi, je pense que j'aurais continué à descendre sans pour autant aller la voir, la voir pour dormir à l'infirmerie ou quoi que ce soit, mais pour en parler.
Faire la démarche. Merci vraiment beaucoup à toutes les deux d'être intervenues. Camille, votre témoignage est formidable et j'espère que ça incitera justement des adolescents comme ça à se faire aider. Merci beaucoup aussi Johanna Chea sur tout ce que vous faites dans ce lycée. On a au téléphone le docteur Ali Njoukandi, qui est pédopsychiatre au centre de neuropsychopathologie de l'université de Kinshasa en RDC. Docteur Njoukandi, bonjour.
Bonjour, Pierre-Edouard.
Quelles sont les difficultés psychiques justement que rencontrent les ados dans les lycées en République démocratique du Congo? Je dirais, comment se manifeste le malaise, et est-ce que vous constatez le même problème de phobie scolaire qui est en train de se développer?
Oui, c'est un problème majeur dans notre milieu. Mais malheureusement, c'est l'approche de pouvoir poser le diagnostic. Parce que le système, l'enseignement primaire et secondaire est organisé. Ce n'est pas toutes les écoles où vous pouvez trouver ne plus qu'un dispensaire. Et les dispensaires, s'il existe un dans une école, ces dispensaires ne s'occupent plus que des pathologies somatiques, physiques, c'est-à-dire des plaies, mal à la tête, on donne des antipyrétiques, ainsi de suite.
Mais peu de la santé psychique.
Intégrer les aspects psychologiques, non. Non, on n'a pas vraiment ces écoles-là. Parce que nous avons tenté de faire une étude dans une école. Et d'ailleurs, quand vous partez dans une école, vous dites que moi, je suis un psy, je vais voir un peu les enfants, ça pose déjà problème. Tout le monde dit, mais non, ici, les enfants ne posent pas problème. Mais quand vous suivez, vous allez vous rendre compte qu'il y a parfois une prévalence dans certaines heures où les élèves quittent la classe pour aller se diriger vers le dispensaire. Et quand vous leur posez la question, le plus souvent, c'est qu'il y a une mauvaise interaction entre les élèves et l'enseignant, ou bien les élèves n'aiment pas assister à ce cours, et ça pose problème. Donc, les problèmes psychologiques ou psychiques, il y en a, mais ça pose un problème de pouvoir poser le diagnostic.
Je voudrais juste faire réagir là-dessus, professeur Marie-Rose Moreau. Ça continue quand même aussi en France, à gêner, là, le psy qui intervient à l'école. Enfin, j'imagine que ça reste encore compliqué, non?
Alors, à l'école française, l'intervention des psys, je ne sais pas si elle pose... on reconnaît cette dimension, mais... Et on tient, et je crois que c'est important, de séparer les espaces, de séparer les deux. Mais dans ce que dit mon collègue et confrère, en RDC, c'est de reconnaître ces dimensions. Les ados, ils ont l'air de reconnaître, de bien savoir que là, il y a un moment difficile et ils trouvent des stratégies. Mais il faut nommer ça.
Il faut que les adultes reconnaissent. Voilà. Et justement, docteur Njoukandi, quel est le regard de la société sur ces problèmes des ados? Est-ce qu'il n'y a pas un regard un peu négatif en disant il n'a qu'à faire un effort, en gros?
Oui, vous savez, le problème se pose lorsque vous avez le problème de décrochage scolaire. Et quand ça va bien, les gens ont l'impression que l'enfant peut avoir des problèmes psychologiques. Lorsque le rendement scolaire évolue, il réussit à l'école, on a tendance à pouvoir ignorer que l'enfant a des problèmes. C'est plutôt le risque de décrochage scolaire qui nous met la pousse à l'oreille pour dire que là, il y a un problème. Parce que nous, quand nous avons utilisé les questionnaires des risques de décrochage scolaire auprès des élèves, beaucoup d'élèves insistent sur le fait de l'engagement parental et de la supervision parentale. Pour eux, ils incriminent leurs échecs ou la problématique de décrochage scolaire par rapport à ces attitudes vis-à-vis de leurs parents. Et cela s'explique lorsque vous voyez les malaises psychologiques des enfants, le plus souvent, ils les manifestent par des troubles somatoformes, des somatisations. À telle enseigne que l'enfant qui se plaint parfois des maux de ventre, maux de tête, on croit que c'est une sorte un paludisme, alors que ce sont des plaintes somatiques d'origine psychologique.
On l'a bien entendu avec Camille tout à l'heure d'ailleurs, hein. C'était très clair.
Ce qui fait qu'il y a aussi une déperdition par rapport à la prise en charge. Les omnipraticiens chez qui on amène les enfants à première ligne, ils n'ont pas connaissance, cette information de pouvoir intégrer les différents aspects. Les aspects psychologiques dans les plaintes que présentent les adolescents.
Merci beaucoup, docteur Ali Njoukandi. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre en République démocratique du Congo. Marie-Rose Moreau, je voudrais vous faire réagir sur une chose qui vient d'être abordée, justement sur la pression scolaire et pression des parents. On a eu beaucoup de témoignages, on n'a pas pu prendre beaucoup d'auditeurs là parce que les lignes étaient mauvaises, on n'arrivait pas à les joindre. Mais beaucoup d'adolescents qui se plaignent de la pression des parents, beaucoup de parents qui reconnaissent aussi qu'ils mettent la pression d'ailleurs sur leurs enfants pour la réussite.
Et oui. La question de la pression scolaire des parents est une question en plus que l'on retrouve dans des milieux sociaux très différents, c'est-à-dire que aussi bien dans les classes modestes que dans les classes très favorisées, il y a cette focalisation que l'on comprend, on comprend le que c'est important de réussir à l'école, mais ne voir l'enfant que par ce prisme-là, en fait, ça ne rend jamais service aux enfants, ça les met en grande difficulté et ça les empêche de trouver leur propre voie. Parce qu'en fait, à l'école, on le voyait dans le témoignage de Luc au début, il faut trouver quelque chose qui
vous plaît,
qui vous plaît, qui dans lequel vous avez envie de vous investir. C'est pas possible de faire autrement. Donc il faut.
Et comment vous faites avec ces parents alors parce que vous travaillez avec les ados, on en a beaucoup parlé, mais du coup aussi avec les parents.
Ah oui. Alors moi je crois d'ailleurs qu'il faut travailler encore plus avec les parents que ce qu'on le fait pour même par exemple dans le dispositif du lycée. Je pense qu'il faut vraiment associer les parents parce que si on les associe pas, d'abord eux ils sont en difficulté clairement, donc on les aide pas, et deuxièmement on arrive rarement à réussir sans l'aide des parents. Donc vraiment ce souci pour les parents. Alors comment on fait? Eh bien on négocie, on discute, on fait de la diplomatie, on prend le point de vue des enfants, le point de vue des parents, celui de la société, et on arrive à trouver une négociation. Je crois que vraiment si on le fait pas, par exemple en France, il y a une hiérarchie incroyable entre les filières littéraires et les filières scientifiques. Certains de nos adolescents rentrent, ils sont dans une filière scientifique, ils alors sortent des... guéris et ils sont dans une filière littéraire. Ils ont changé de filière en même temps qu'ils se sont soignés.
Et j'imagine que c'est des sujets que vous allez largement réaborder dans le colloque du 4 et 5 juin à Paris, c'est ça?
Voilà, bien sûr, on va aborder toutes ces questions-là, mais il faut négocier ça, il faut sortir des hiérarchies qui font du mal. Mais effectivement, dans le colloque du 4 et 5 juin de la revue L'Autre et Babel, nous aborderons toutes ces questions.
On mettra justement plus de renseignements sur ce colloque sur notre site internet. Et je rappelle aussi, professeur Marie-Rose Borot, qu'on vous retrouve très prochainement sur RFI dans l'émission de Yasmine Chouaki en sol majeur. C'est dimanche 12 avril à 14h10. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à Camille d'avoir témoigné. Bonne fin de semaine. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé. Et on se retrouve lundi.